9h31, on est de retour à CFAQ 88.3 FM à l'émission Le 9. Et dans le cadre du cours Communication orale, on a des étudiants qui viennent nous parler d'intelligence artificielle. Et pour commencer, c'est Antoine. Je laisse la parole à Antoine.
Intelligence artificielle et de son potentiel incroyable pour augmenter la productivité. Mais une question persiste. Est-ce que l'IA est vraiment un outil libérateur ou simplement une nouvelle manière de dévaloriser le travail créatif? Dans les années 60 et 70, les futurologues rêvaient d'un monde sans travail. Selon eux, les machines allaient nous libérer des tâches répétitives pour créer une société de loisirs et d'abondance. On connaît la suite. Malgré les ordinateurs, les robots, les chaînes automatisées, le travail n'a pas disparu. Au contraire, il s'est transformé et parfois intensifié. Par exemple, selon l'Institut de la statistique du Québec, près du tiers des personnes en emploi doivent composer avec un niveau élevé d'exigences psychologiques reliées à leur charge de travail. On est donc loin d'une société de loisirs. L'intelligence artificielle, au fond, ne fait pas exception. Comme les technologies d'hier, elle ne crée pas de valeur par elle-même. Ce sont encore les humains qui produisent et consomment. Donc, dans notre système économique, le travail reste indispensable pour continuer à produire toujours plus. Alors, l'IA sert qui? Elle sert les grandes entreprises pour réduire les coûts, pour augmenter la productivité et, surtout, les profits. Dans cette logique, l'IA n'est aucunement l'assistant du travailleur, mais plutôt sa condamnation à travailler plus pour recevoir moins. C'est difficile de ne pas voir un parallèle avec les discours utopiques des années 70 que j'ai évoqués. On nous parle encore de libération des tâches ingrates. Les tâches répétitives sont supposées être remplacées par des tâches émancipatrices, mais si on se fie à l'histoire, les travailleurs auront simplement plus de responsabilités. La distance entre le travailleur et le produit final se creuse, et avec elle, la satisfaction du travail pourrait chuter drastiquement, surtout dans les domaines créatifs. Si l'IA peut générer des images, des textes, de la musique, que reste-t-il comme tâche émancipatrice? La création, c'est un processus. Ça passe par les brouillons, les erreurs, les essais et le recommencement. C'est un geste profondément humain que l'IA risque de modifier à tout jamais. Vous vous posez sans doute la question, que faire? Il faut repenser notre rapport à la technologie. L'IA peut servir le bien commun, mais seulement si elle est démocratisée, transparente et éthique. Parce qu'au fond, cette technologie n'est pas une menace en soi. Le danger réside dans ceux qui la possèdent et l'exploitent. En ce contexte de guerre tarifaire, il est clair pour moi que nous avons besoin d'IA qui servent les gens d'ici et non les grandes entreprises américaines. Pour que l'IA soit libératrice, il faut d'abord qu'elle serve l'humain et non le profit.
Merci beaucoup, Antoine. Et ensuite de ça, on a Rose.
Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui me rejoint particulièrement. L'évolution de la photographie à l'ère de l'intelligence artificielle. Vous vous souvenez qu'en prendre une photo, c'était l'art de capturer le moment présent. Quand j'étais jeune, la photographie, c'était encore ça. Bon, j'ajoute un peu de nostalgie ici parce que, soyons honnêtes, je suis née après les belles années de l'argentique quand on commençait à laisser place au numérique. Mais je peux quand même dire que je l'ai un peu vécu. J'ai étudié en photo au Cégep du Vieux-Montréal, alors j'ai eu la chance d'expérimenter la chambre noire. Une expérience assez unique pour quelqu'un de ma génération. Disons que c'est pas tout le monde de mon âge qui a déjà touché un rouleau de film. Honnêtement, j'ai été charmée. Parce qu'en argentique, on pouvait pas tricher ou presque. Fallait sortir son appareil photo, cadrer la scène, prier pour que personne cligne des yeux ou passe devant l'objectif au moment du clic. On devait attendre le développement du film avant de savoir si c'était raté. C'était pas instantané, mais c'était vrai. Et surtout, chaque détail comptait. Chaque photo comptait. C'était pas juste une image, c'était un souvenir qu'on créait. Puis après l'argentique est arrivé le numérique. Je me souviens de mon père qui, quand j'étais jeune, me photographiait pendant mes grandes performances de danse dans le salon ou filmait des petits vlogs de nos journées. Des beaux souvenirs que je possède encore aujourd'hui en un seul exemplaire. Mais plus les années passaient, plus les versions d'une même photo se multipliaient. On reprenait la même scène encore et encore jusqu'à obtenir la photo parfaite, celle où tout semblait naturel. Ironique, considérant qu'on est en train de tuer la spontanéité. Tout le monde a commencé à prendre tout en photo, tout le temps. Des milliers de photos qui dorment dans nos téléphones, nos disques durs, nos nuages. Petit à petit, on a cessé de vivre le moment pour mieux le capturer. Et aujourd'hui, avec nos téléphones et toutes les technologies qu'on a à portée de main, tout le monde est photographe, même ceux qui détestent prendre des photos. Et là, depuis un certain temps, on a franchi une nouvelle étape, l'intelligence artificielle. Une photo de coucher de soleil à Bali, pas besoin de prendre l'avion, même pas besoin d'y être allé. Une photo de mariage, pas besoin de photographe, même pas besoin de mariage. On tape une phrase et une image apparaît. Et c'est là que ça devient complexe, pour les photographes, mais aussi pour tout le monde. Parce que l'IA permet de créer des images parfaites, même si ce qu'elle montre n'a jamais existé. Les deepfakes, les images générées de toutes pièces, ça ouvre des possibilités incroyables, mais ça soulève aussi des questions éthiques. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est fabriqué? À force de tout pouvoir générer, on perd le lien avec le réel. Pour les photographes, ça change tout. Avant, la photo, c'était un réflexe humain. Ça prenait du talent. Aujourd'hui, plus rien de tout ça est nécessaire. La photographie, c'est devenu une requête. Et là, quelque chose s'est perdu. Mais peut-être que c'est ça, notre époque. Tout vouloir parfait tout de suite. La photo ne fait que suivre le mouvement. De l'argentique au numérique, puis du numérique à l'IA. Et ça, je suis bien placée pour en parler, étant moi-même photographe. Oui, l'IA change la photographie. Elle change le métier, elle change les règles, mais le cœur d'une photo, c'est ce regard humain, cette sensibilité. Ce petit quelque chose qu'aucune machine ne pourra jamais recréer. Parce qu'au final, la photographie, c'est l'art de capturer le moment présent.
Merci beaucoup, Rose. C'est à Raphaël maintenant.
Oui, donc aujourd'hui, je vais parler d'images, de celles qu'on monte, celles qu'on retouche, puis celles qu'on finit parfois par plus reconnaître. Ferme les yeux une seconde, imagine-toi devant ton téléphone, l'écran s'allume, ton visage apparaît, puis là, un simple glissement du doigt, ton reflet change, peau lisse, yeux plus grands, sourire impeccable, nez plus fin, tu te reconnais sans vraiment te reconnaître. Un selfie, deux fils, ton visage n'est plus vraiment le tien, tu ouvres ton application, un clic et tout change, tu ajustes la lumière, tu souris, puis tu te dis « Ah, pas pire, mais c'est plus vraiment toi ». L'intelligence artificielle est à portée de main sur nos réseaux sociaux. On peut tout modifier, supprimer, agrandir, ajouter. Tout ce qu'on n'aime pas peut disparaître d'un coup. C'est facile, mais surtout très accessible à tous. Sur TikTok, Instagram, Snapchat, les fils d'intelligence artificielle sont partout. Ils promettent une version améliorée de nous-mêmes. Peau parfaite, regard lumineux, proportions égales. Au début, c'est un jeu, un moyen de se mettre en valeur, de s'amuser avec son image. Mais à force, on s'y attache, on se compare, on se juge. Et notre vrai visage finit par nous sembler imparfait. Pourquoi? Parce que la société a imposé des standards de beauté précis. Peau lisse, sourire éclatant, silhouette affinée, des critères répétés sans fin dans les publicités, les magazines, les séries et sur les réseaux sociaux. Petit à petit, ces images deviennent la norme. Les influenceurs amplifient ce phénomène. Leurs publications sont impeccables, lumière contrôlée, angle calculé, filtre discret mais efficace. Ce qui semble naturel ne l'est plus vraiment. Les visages se ressemblent, les expressions s'uniformisent et ce qui devait être une amélioration devient une obligation silencieuse. On like, on commente, on partage et le fil s'impose comme un nouveau standard de beauté. L'intelligence artificielle ne se contente plus de masquer une imperfection. Elle apprend ton visage, comprend ce que tu veux modifier et adapte les filtres à tes préférences. Elle anticipe, affine, ajuste et plus on l'utilise, plus on s'attache à cette version artificielle de nous-mêmes. Une version plus douce, plus lisse, plus parfaite. Les jeunes générations grandissent avec ces images. Elles passent des heures à retoucher, à comparer, à chercher la bonne version d'elles-mêmes. Chaque nouveau fil promet un mieux. Mieux que soi, mieux que la réalité. Et ce mieux devient un besoin, une habitude, une norme. Petit à petit, l'IA s'installe dans notre rapport à nous-mêmes. Elle devient maquilleur numérique, coach invisible, juge silencieux. Et pendant qu'elle nous embellit, elle brouille notre perception du vrai. Alors, la question se pose, sommes-nous encore capables d'aimer notre visage sans filtre? Pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est vrai. Aujourd'hui, la beauté se définit par les likes, les commentaires et les partages. Elle se façonne à coups de filtres et de retouches numériques. Mais l'IA peut embellir le superficiel. Elle ne touche jamais le réel.
Bien, c'était Raphaël, Rose et Antoine. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu parler d'intelligence artificielle. Pour votre cours, même si c'était obligatoire.
Merci.
Puis, pour ceux qui nous écoutent, on s'en va en pause musicale et publicitaire. Et ensuite, on s'en va parler à Alexandre Dumas.